et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série que j'ai débutée l'année dernière en 2023 et qui s'intitule « Apprendre à s'aimer en 10 leçons ». Alors aujourd'hui, cette vidéo va parler des limites, de comment identifier ses limites, en particulier évidemment quand on est une personne hautement sensible. Et donc cette leçon numéro 4 s'appellera « Identifier ses besoins et apprendre à poser ses limites ». Alors vous me direz, c'est un thème vaste, alors probablement que j'arriverai pas à tout aborder durant cette vidéo. Et je me suis fixé un petit peu un objectif comme ça, de vous présenter à chaque fois 5 raisons déjà pour lesquelles c'est important. Et puis 5 stratégies en particulier pour apprendre à poser ses limites. Alors surtout, restez toute cette vidéo, je vais essayer de faire quelque chose de clair et si possible assez léger. Voilà, donc moi je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach au centre de thérapie naturelle Anizen que j'ai fondé en fait il y a 10 ans cette année, donc c'est une grande année pour moi et pour mon partenaire dans la vie comme au travail, Ricardo Rojas. Alors qui sommes-nous? Eh bien justement, nous sommes, comme je viens de le mentionner, on est partenaire au travail, nous sommes les deux hypnothérapeutes et coachs, nous sommes les deux hypersensibles et plutôt hautement sensibles et spécialistes donc, de ce profil finalement neurobiologique. Et Ricardo lui-même consulte également, tout comme moi, ici dans notre cabinet qui se trouve en Suisse, à la Tour de Trême, dans la commune de Bulle, ou alors tout à fait aussi possible de consulter à distance. Donc vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site internet www.anizen.ch. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche et en vous abonnant pour avoir toutes les nouveautés qui vont paraître cette année encore sur ce thème fascinant de la haute sensibilité qui me passionne personnellement maintenant depuis en tout cas 10 ans, si ce n'est plus. Enfin, ça fait quand même à peu près 10 ans justement que j'ai moi-même appris que j'avais ce profil-là et ça m'a permis de faire un bond immense dans mon développement personnel parce que ça m'a permis de comprendre en fait plein de choses sur moi, sur mon fonctionnement. Et se connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire se connaître? Moi, je me suis posé cette question pendant très longtemps. Bon, vous vous doutez que comme je suis hautement sensible, je me pose énormément de questions. Enfin, justement, je trouvais ça vaste en fait. Connais-toi toi-même, mais qui je suis, qui est-ce que je ne suis pas, etc. Donc, ça a été toute une histoire pour moi. Et je pense pas avoir terminé, sauf que maintenant, j'ai lâché l'idée de vraiment me connaître au fond parce que je crois qu'on se réinvente à tout moment. Dans tous les cas, j'ai compris une chose, c'est que si on croit trop se connaître, c'est un peu un piège parce que finalement souvent on est identifié à des personnages, des personnalités qu'on n'est pas. Moi pendant longtemps par exemple, j'étais persuadée d'être quelqu'un de tout le temps fatigué, qui manquait d'énergie, etc. Voilà, ce travail que j'ai fait ces dernières années pour comprendre comment finalement réguler mon énergie m'a permis de réaliser que j'étais pas du tout quelqu'un de tout le temps fatigué, de tout le temps déprimé. J'étais juste quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à prendre particulièrement soin de ses besoins pour maintenir un bon équilibre. Et comme tout dans la vie et dans l'univers d'ailleurs, c'est une question d'équilibre. C'est même dit dans la Bible que c'est important en fait de garder un bon équilibre pour avoir une bonne santé spirituelle. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette série de vidéos, mais particulièrement celle-ci aujourd'hui. J'ai attendu de la faire pour diverses raisons. Alors, déjà parce que un de mes besoins, c'était peut-être de faire une pause avec cette production de contenu. J'avais besoin de me sentir à nouveau inspirée et puis de sentir à nouveau la motivation, de sentir que c'était utile surtout. Mais en particulier parce que ce thème des limites, ça a été pour moi un immense défi. Alors je pensais avoir grandement avancé sur le sujet, tout était facile tant que j'avais pas d'enfant, puis ensuite j'ai eu un enfant. Et là, tout a été modifié déjà dans mon couple, hein. C'est-à-dire que, avant ça, on avait vraiment des soirées chacun pour nous, et puis on avait pas mal de temps où on était seul. Et puis tout à coup, voilà, on est à trois, et puis beaucoup plus souvent finalement ensemble, en famille, ce qui est magnifique d'un côté, mais en fait, au niveau de moi, de ma récupération, de mon énergie, de mes moments de solitude en fait, dans lesquelles je me réfugiais, ça je me suis aperçue aussi, ça a été plus compliqué. Donc j'ai dû apprendre aussi après avec mon fils, quand il a grandi, à lui poser des limites parce que c'est important pour un enfant pour en fait construire sa personnalité puis se sentir en sécurité, c'est important qu'il ait des limites bien claires. Et comme moi, déjà avec mes propres limites, c'était des fois un peu flou, puis ma solution, ma stratégie que j'avais trouvée, c'était un peu de me réfugier chez moi dans ma solitude, comme ça, j'avais pas finalement à poser de limites à qui que ce soit vu que je me retrouvais seule. Quand on n'a pas trop le choix, on est obligé d'apprendre à les poser. Et puis finalement, ça a été tout un chemin. Et je ne sais pas si j'ai arrivé au bout du chemin. C'est très probable que non, très sincèrement, si je vais être honnête avec vous. Mais enfin, ça m'a quand même permis de pas mal avancer. Et puis le résultat, je peux le voir aussi sur mon fils qui grandit, qui évolue. Puis sur moi, sur mon énergie, en fait. Je me sens beaucoup mieux et j'ai retrouvé mon équilibre. Ce qui était aussi intéressant, c'est que comme on dit que dans la vie, en fait, on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, j'ai même été mandatée pour donner des stages à des adolescents sur justement ce thème d'identifier ses besoins et de poser ses limites. Donc ça m'a en plus motivée et surtout un peu obligée à faire des recherches sur notamment aussi quelques données scientifiques. Et puis grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle, j'ai aussi pu corroborer mes informations avec ChatGPT qui a confirmé pas mal de choses et puis qui m'a donné aussi de nouvelles idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous invite encore une fois à rester jusqu'à la fin, à vous abonner à ma chaîne. Vous me trouvez aussi sur Facebook, sur Instagram et maintenant même sur TikTok, même si pour l'instant je dois dire, je ne suis pas très active parce que je travaille beaucoup en consultation. Donc par rapport à d'autres, j'ai moins de temps pour être présente sur les réseaux. Mais voilà, je fais de mon mieux pour en tout cas transmettre ce que j'ai appris et j'ai confiance en l'univers pour que les personnes qui ont besoin d'écouter ces vidéos auront l'information d'une manière ou d'une autre. Merci en tout cas d'être toujours là pour cette vidéo. Et puis donc, je vais commencer par finalement parler un tout petit peu de cette définition. C'est quoi finalement les limites? Alors là, de nouveau, j'avais envie de vous parler un peu de ce que disait ChatGPT sur le sujet. Il disait qu'en fait, poser ses limites, c'est se définir ce que l'on est prêt à accepter ou pas. Alors ça paraît tout simple en fait, mais je crois que pour pouvoir dire à quelqu'un non ou oui, il faut vraiment connaître bien ses limites et puis être un peu libéré finalement de tout un tas d'injonctions qu'on reçoit tout au long de notre éducation, qui sont aussi pas mal, qui nous viennent de la société, etc., de ce qu'on pense être bien, être juste, etc. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que pour nous, les personnes hautement sensibles, c'est plus compliqué parce qu'en fait, le système nerveux chez nous est facilement surstimulé, c'est-à-dire que nos limites vont être plus rapidement atteintes. Et puis souvent on va se gêner, et puis on n'osera pas en fait poser ses limites. Souvent d'ailleurs on est dissocié, on est beaucoup dans notre tête et moins dans notre corps, donc on ne sent même pas la limite quand elle est dépassée. Puis ensuite on est irritable, et puis là finalement tout à coup on explose, et puis cette limite va s'imposer à nous et à l'autre, et d'une manière où après on va s'en sentir, voilà, tout liquéfié là, oh j'ai été méchante, etc. Et puis on n'a pas détecté qu'au fond on n'avait pas su ou oser prendre soin de nos limites, on n'a pas détecté ce moment-là, on s'est épuisé, on a été fatigué, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux, quand il est fatigué, eh ben en fait, finalement, il devient, comme on dit, très très actif et très réactif. Déjà, on est rempli et envahi d'idées noires, d'anxiété, on commence à réfléchir, à ruminer, voilà, des trucs que d'habitude on ne rumine pas. Et puis là, alors ensuite, on va aller voir plein de vidéos, de podcasts sur le développement personnel, la pensée positive et tout ça. Puis on va en plus s'obliger après à penser positif là-dessus et puis à être bienveillant alors qu'en fait, on est déjà au bout. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, là-dedans, je m'enfonçais finalement. Et que ces injonctions de devoir penser positif, c'était pour moi, en tout cas, je trouve, une aberration. Pour moi, la façon dont je pense, elle est le résultat de comment est-ce que j'ai réussi à préserver mon équilibre. Quand je commence à partir en vrille, moi j'appelle ça, quand je commence à overthinking, on dit en anglais, c'est-à-dire penser sans arrêt, ruminer des trucs, être constamment dans l'émotionnel, dans la frustration, dans le tout le temps très vite touché, tout, Alors évidemment, quand on est hautement sensible, on a des émotions intenses, hein. C'est pas de ça dont je parle, mais quand n'importe quoi finalement vient nous heurter, quand on supporte plus rien, c'est simplement qu'on est épuisé et il est urgent de s'arrêter. Donc il n'est pas urgent de se forcer à penser positif, il est urgent d'arrêter de penser, de prendre soin de soi, de se reposer, et il y a plein de techniques pour ça. Vous allez probablement apprendre lesquelles vous conviennent le mieux, mais en tout cas, la recherche démontre que bah, dans ces moments-là, il faut absolument faire baisser le taux de cortisol. Il y a plusieurs solutions pour y parvenir. Bon, déjà, il faut sortir du stress permanent, peut-être évaluer votre vie, faire quelques réglages, mais avant ça, il y a des choses beaucoup plus rapides à faire, par exemple, prendre un bain chaud, ou se faire faire un massage, ou faire un câlin qui dure de plus de 20 secondes. Voilà, ça, c'est des choses. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, on sécrète de l'endorphine et cette hormone-là va nous permettre de nous sentir mieux et puis aussi va automatiquement faire baisser le taux de cortisol. Donc c'est pas pour rien qu'en fait on a besoin de réconfort dans ces moments-là. Alors vous allez me dire oui, moi j'ai plutôt besoin de solitude, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, prenez un bain, mais c'est vrai que souvent, ce n'est pas forcément de la solitude dont on a besoin, c'est plutôt d'être moins stimulé, d'être dans un environnement sécurisant et d'apprendre à construire ces relations-là dans lesquelles on peut trouver cette sécurité, c'est ultra important. Donc, je reviens à ce que je voulais vous dire. Poser ses limites, c'est savoir être ce qu'on est prêt à accepter ou non, et si on n'est pas prêt à l'accepter, d'une manière respectueuse envers soi et envers les autres, de pouvoir finalement poser une limite pour respecter ses besoins psycho-émotionnels et physiques. Ça nécessite aussi de communiquer ça clairement à l'autre. C'est-à-dire que, comme je le disais, si vous êtes entouré de personnes hautement sensibles qui fonctionnent exactement comme vous, bah c'est parfait, vous n'aurez pas à le faire, mais c'est rarement le cas, hein, comme on reste une minorité. Enfin, on est quand même 20%, mais on reste une minorité. Puis même chez les personnes hautement sensibles, on n'a pas tous les mêmes besoins. On fonctionne finalement quand même pas tous de la même façon. Et si, par exemple, avec mon conjoint Ricardo, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stimulation, de nouveautés, qui est très curieux. Et puis pour lui, aller, par exemple, tous les dimanches se promener au même endroit, c'est mortel, en fait. Il a vraiment besoin de trouver des choses nouvelles et puis de stimuler son esprit par de la culture. Bah, il a plein de lectures différentes, etc. Moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de contemplatif. Et puis, j'ai plaisir, en fait, à faire bah, toute la semaine, tous les matins, la même promenade. Parce que pour moi, c'est tous les matins différent. Et puis, je me sens rassurée parce qu'il y a une forme de routine. Et puis, en même temps, je vais percevoir tous les détails qui vont changer par rapport à aujourd'hui, à demain. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée en forêt faire le même chemin que j'ai déjà fait des millions de fois, mais il y avait de la neige, il y avait des petits cristaux, par moments un peu de lumière, et puis voilà, c'était magnifique. J'ai regardé les traces d'animaux par terre, puis c'était tout nouveau en fait, et pour moi c'est déjà suffisant, et pour lui c'est évident que c'est totalement barbant. Donc en fait, on doit trouver une manière de fonctionner qui fait que chacun de nous finalement peut répondre à ses besoins, et puis avoir suffisamment de sécurité, de routine, et de moments finalement où on se ressource, et suffisamment aussi de moments où on vient nourrir son esprit et puis son énergie. Donc ça nécessite de bien se connaître, de communiquer avec l'autre et de communiquer, je dirais aussi, avant que nos limites soient dépassées. Donc c'est à nous de prendre cette responsabilité-là. Si on veut finalement pouvoir communiquer ça d'une manière bienveillante, il faut pas trop attendre. Si j'attends trop, je suis juste un être humain. À un moment donné, je vais exploser parce que bah, finalement, je viens irritable en fait. Donc pourquoi justement c'est aussi important d'apprendre ça, c'est que, bah, encore une fois, tout le monde ne va pas obligatoirement être enclin à respecter vos limites, même si en tant que personne hautement sensible, on a de la peine à comprendre ça. C'est vrai que par rapport à l'époque où j'ai commencé ce métier, que j'ai commencé à accompagner des personnes hautement sensibles, souvent je leur apprenais ce que c'était que la haute sensibilité. 10 ans après, maintenant, ça s'est, j'ai envie de dire, vulgarisé. On est de plus en plus à être au courant qu'on est hautement sensible, on sait qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde, mais tout de même, en fait, on reste effaré la plupart du temps qu'il y a des gens qui pensent d'abord à eux, qu'il y a des gens qui, voilà, qui soient irrespectueux, puis à qui ça pose aucun problème, qu'il y a des gens qui soient très centrés sur eux. Et c'est simplement des fonctionnements différents. Et puis, à un moment donné, ben, on peut s'exaspérer, on peut s'énerver, on peut se positionner en victime toute notre vie. Mais voilà, c'est très énervant à la fin de tout le temps se faire marcher sur les pieds, puis de se sentir comme ça, finalement, sans aucun pouvoir. Donc, c'est une des clés dont je vais parler encore à la fin, où je vais résumer tout ça, c'est de pratiquer la communication assertive. C'est de développer cette capacité d'être ferme, finalement, sans être méchant, sans non plus être trop gentil. Et encore une fois, c'est tout un art, j'ai envie de dire, de trouver ce bon équilibre pour que la limite soit claire. Et quand la limite est vraiment claire, en tout cas, avec les enfants, ça fonctionne comme ça. Et de mon passé en entreprise, j'avais aussi remarqué ça. Quand la limite est vraiment claire pour soi et qu'on est totalement déterminé à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à faire ce qu'il faut pour que cette limite soit respectée, ça fonctionne. C'est entendu. Mais ça nécessite, je dirais, un positionnement intérieur qui soit extrêmement clair pour soi, déjà, pour commencer. Bah, poser ses limites, ça permet de rester en bonne santé mentale. C'est un acte finalement d'amour envers soi et de respect envers soi. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était magnifique d'en parler dans cette série, d'apprendre à s'aimer en leçon. Et comme bah, moi j'ai accompagné beaucoup de personnes et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi eu pas mal de défis à relever dans ce domaine-là de ma vie, j'ai trouvé que c'était particulièrement important aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ces besoins. Parce qu'encore une fois, pour les gens comme moi qui ont lu énormément de bouquins de développement personnel sur la spiritualité, tout ça, souvent, eh ben en fait, y a une confusion, je dirais, entre le fait d'avoir des besoins et finalement de les respecter et aussi de les communiquer. Il y a une confusion entre ça et le fait d'avoir trop d'attentes. Particulièrement en tout cas dans le couple. Par exemple, moi j'ai été assez longtemps célibataire, donc j'ai fait tout un tas de cours, de love coaching, etc., pour trouver l'amour. Et puis on me disait tout le temps, faut pas avoir d'attente, etc., machin. Et puis, bon, c'est certainement vrai. Mais je crois qu'il y a une confusion, en tout cas il y en avait une dans mon esprit, entre ce que c'est que le besoin et la stratégie pour l'obtenir. Et là, j'ai trouvé de merveilleuses réponses dans la communication non violente. Et eux, ils parlent vraiment bien des besoins. En disant justement que connaître ses besoins, c'est connaître comment réguler notre énergie intérieure. Le besoin, en fait, c'est une force motrice innée qui soutient l'épanouissement de la vie en soi et autour de nous. Et ça, c'est magnifique, je trouve, comme définition. Et vraiment, ce qui est fabuleux dans cette communication non violente, et je vous invite à lire sur le sujet, à regarder des vidéos sur le sujet, de gens qui sont beaucoup plus experts que moi et puis qui connaissent le sujet bien mieux que moi. Je vous mettrai dans l'historique de la vidéo des liens que vous pouvez consulter. En tout cas, ils font vraiment une distinction entre le besoin et la stratégie pour répondre à ce besoin. Et là, je vais vous donner un exemple, par exemple, le besoin d'attention. Voilà. Alors, c'est un besoin qui me parle particulièrement en ce moment parce que j'ai un enfant de un peu plus de 3 ans qui a besoin souvent d'attention, c'est normal à son âge. Et puis les stratégies qu'il essaye, il va toutes les essayer, il y en a certaines qui marchent mieux. Et en tout cas, par exemple, il a remarqué qu'avec moi, s'il se mettait à hurler, ça fonctionnait bien, parce que comme j'aime pas trop le bruit, que ça me... En général, et puis c'est un automatisme que j'avais au début, dès qu'il se mettait à crier, j'avais tendance à tout de suite réagir pour qu'il s'arrête en fait de crier. Puis ça m'a pris un moment pour réaliser que bah, c'était lui apprendre que la... Crier, c'est une bonne stratégie pour répondre à ses besoins. Et puis, donc, j'ai appris en fait à lui demander déjà de baisser d'un ton, de choisir des mots parce qu'il sait déjà bien parler à son âge, et puis de demander en fait s'il vous plaît, par exemple. Et puis, quand j'ai vu comme ça pouvait être difficile pour moi d'apprendre à demander ça à mon fils parce que justement, ben, la stratégie qu'il utilisait, ça avait tendance à fonctionner parce que ça m'agaçait, je me suis dit, mais il y a combien de fois en fait dans la vie où sans que je m'en rende compte, par peur que quelqu'un s'énerve, je vais commencer à anticiper ses besoins, à répondre à ses besoins pour éviter les conflits, les désagréments. Et puis comme quand on est hautement sensible, on est empathique, si la personne est contrariée tout de suite, ça fait un truc à l'intérieur, on n'aime pas ça et tout ça. Donc on a tendance un peu à se suradapter juste pour pas que les gens s'énervent, juste pour pas que les gens soient fâchés, soient contrariés. Et puis avec ça, petit à petit, on glisse comme ça sans vraiment se rendre compte vers ben, je me suradapte. Et finalement, moi, mes besoins, tant pis. Mon besoin prioritaire, c'est l'harmonie. Mon besoin prioritaire, c'est que tout le monde soit bien autour de moi. Comme ça, moi, je peux espérer avoir un tout petit moment de paix. Sauf que quand ça arrive, je suis tellement épuisée que voilà, j'en profite pas. Puis après, oh, je suis fatiguée, c'est trop dur d'être hautement sensible et tout. Alors qu'en fait, ben voilà, ça s'apprend. J'ai remarqué que ça s'apprenait. L'empathie, c'est un don et c'est pas une malédiction en fait. Donc, je peux apprendre à me repositionner sur mon propre ressenti, à créer une forme de limite et de barrière entre ce que les autres ressentent et puis ce que moi je ressens, puis à reconnaître ma propre énergie. Et si nécessaire, ben, j'ai appris aussi à mettre certaines personnes à distance. Et puis, quand en général on pose les limites clairement, la personne comprend, puis elle va pas se mettre à faire un cake. Comme mon fils de 3 ans, par exemple, maintenant il a bien capté que ça servait plus à rien de se mettre à hurler, parce que en fait, j'ai cessé de répondre à ses besoins quand il hurlait. Et je pense qu'on doit faire un peu la même chose avec les grandes personnes. Les besoins, alors il y en a plein, hein, des psychologues et des médecins qui ont parlé de ça. Donc il y a la pyramide de Maslow qui est très importante. Évidemment, là, ce dont je vous parle, c'est les besoins supérieurs de la pyramide, hein, mais il y a aussi les besoins primaires, c'est-à-dire bien dormir. Et ça, moi, le nombre de personnes hautement sensibles que je vois en consultation qui ont des problèmes de sommeil liés à leur anxiété, voilà, déjà leurs besoins primaires peuvent pas être remplis. Ensuite, souvent, on est épuisé, on est anxieux, donc on commence à mal manger, on va négliger certains de ces besoins-là, les besoins du corps physique, on va négliger aussi le besoin de mouvement, etc. Et puis tout ça, finalement, ça fait partie d'un cercle vicieux. Et l'idée, c'est de trouver comment désamorcer ça pour revenir dans un cercle vertueux et petit à petit retrouver son énergie. Et puis, une fois que j'ai de l'énergie aussi, je me sens déjà mieux protégée et j'arrive mieux aussi à être assertive. Parce que c'est évident que quand je suis épuisée comme ça, j'arrive plus finalement à sentir en moi cette force, cette confiance qui me permet d'être dans le bon positionnement pour poser des limites. Donc rassurez-vous, si vous en êtes là, il y a tout à fait des voies pour lesquelles, qui sont possibles à emprunter. Mais très probablement, la priorité maintenant, c'est finalement de trouver comment vous ressourcer. Et je dis volontairement pas se reposer parce que quand on est entré dans des situations de fatigue chronique, où on est là finalement dans des états de dépression, juste dormir, ça suffira pas en fait. Moi, je me souviens que dans ma vie, j'ai eu des périodes où si j'avais pu, j'aurais dormi tout le temps. Mais en fait, je me réveillais tout le temps fatiguée parce que j'arrivais pas à réguler, à retrouver de l'énergie et à faire augmenter mon niveau d'énergie vitale. Et c'est passé par reprendre une activité sportive en fait et aller à l'extérieur. Et pour ça, mon chien m'a beaucoup aidée et m'a peut-être même sauvé la vie. Je le remercie très souvent d'ailleurs parce que ça m'a aidée. Comme je l'ai eu tout petit au début, il ne pouvait pas marcher trop longtemps. Ça m'a aidée finalement à reprendre soin de moi, de mon corps. Et finalement, après, ça a été tout un enchaînement positif qui m'a permis de reconstruire ma vie. Donc, il y a cette pyramide de Maslow, évidemment. Et puis, j'avais aussi envie de vous parler justement de ces besoins de la communication non violente, parce qu'il parle de ces besoins très très bien. Et je vais vous donner aussi, encore une fois, dans le petit descriptif de la vidéo, un lien vers un site internet où il y a plein de ressources dont moi je me suis inspirée aussi pour faire cette vidéo que j'adore, qui s'appelle l'apprenti girafe. Alors les besoins, donc il y a des besoins évidemment intellectuels, et ça chez les personnes hautement sensibles, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine nourriture, peut-être au-delà d'intellectuel, je dirais spirituelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de nourrir son esprit. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruminer. Voilà. Ça, j'ai remarqué, c'est comme si notre esprit avait besoin d'un os à ronger. Si on n'a pas de questions constructives à se poser, il va se poser des questions destructives. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que peut-être aussi un des problèmes dans votre vie, c'est que vous vous ennuyez. Vous avez besoin de stimulation positive. Pas trop, c'est tout un équilibre à trouver. Trop, vous allez tomber dans l'épuisement, mais pas assez, vous allez tomber dans l'ennui. Et pour une personne hautement sensible, finalement, in fine, les symptômes vont être quasiment les mêmes. Ça va être de la dépression, un manque d'énergie vitale, un manque d'élan vital. Donc il y a des besoins spirituels, évidemment des besoins physiques, et il y a aussi des besoins d'affirmation. Ça, c'est ce dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir conscience de ses besoins, mais si je ne peux pas me les affirmer, et si je ne peux pas trouver une limite finalement entre ce qui est à moi, ce qui m'appartient, ce qui est à l'autre, et si je ne sais pas non plus détecter, et là j'avais fait une vidéo là-dessus, quelle est ma responsabilité et celle des autres? Voilà, je sais que ça commence à devenir très confus et c'est en général comme ça que je vais perdre toute mon énergie. Donc vraiment, ce besoin d'affirmation est très important. On a évidemment aussi besoin des besoins relationnels. Et là, je dirais que c'est assez compliqué parce que les besoins relationnels, bon, il y a les besoins de relations peut-être de couple, en tout cas pour certains, on peut mettre sur pause pendant un moment si nécessaire. Il y a des besoins évidemment d'amitié, etc. Il y a besoin aussi personnellement d'une relation avec les animaux, ça c'est certain, mais en tout cas une relation avec mon propre esprit et une relation avec ma guidance spirituelle, j'ai envie de dire. Et ça, c'est en général le premier qu'on va mettre de côté quand l'agenda commence à se remplir. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai commencé à avoir du succès avec mon activité, ça a commencé à me faire peur. Parce que j'avais peur d'être envahie. J'avais peur ensuite de passer tout mon temps à m'occuper de ma famille, des personnes que j'accompagne et de plus avoir de temps pour moi. Et c'est pour ça que pour accueillir pleinement finalement cette augmentation de patientèle dans mon activité, j'ai dû d'abord apprendre à prendre soin de mes limites. Sinon, ça aurait commencé à devenir dangereux. Et j'aurais perdu le goût en fait de ce que je faisais. Donc ça, c'est très très important aussi de réaliser que ben, la relation à mon propre esprit, ça doit rester la priorité. Et c'est un besoin fondamental. Et quand je dis qu'on est vite surstimulé, quand je dis qu'on a besoin de se ressourcer, c'est ça, c'est quels sont les besoins de votre propre esprit? Et si je vais encore plus loin, quelles sont les activités qui vont maintenir la joie, l'équilibre dans votre esprit? Et je dirais, s'il y a une chose à faire, en priorité, c'est ça, c'est définir ces activités-là. Et quand on commence à s'épuiser, on va le savoir aussi parce que les activités qui nous procuraient avant du plaisir, ça fonctionne plus en fait. J'ai plus de plaisir à les faire. Et là, je sais que je suis allée trop loin parce que j'ai plus de goût à faire les choses qui finalement me ressourcent. Donc, la vie devient une suite de contraintes et comme ça, un jour ou l'autre, tout le monde fait soit un burn-out, soit une dépression, voire les deux. Donc, quels sont mes besoins? Ben, je vois que j'ai déjà des besoins du corps physique, hein. Et puis, j'ai des besoins de m'exprimer, j'ai des besoins de sécurité, j'ai des besoins de pouvoir faire des choix, de m'approprier les choix dans ma vie. J'ai évidemment des besoins de comprendre, très important chez les hypersensibles, un besoin de paix, un besoin d'amour. Et là, vous me direz, voilà, ça devient compliqué en fait. Et ce qui est aussi compliqué, c'est de finalement de trouver un équilibre parmi tout ça. Par exemple, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de prendre soin de moi, mais j'ai aussi un besoin d'amour. Et parfois, et ça, c'est des dysfonctionnements qu'on apprend déjà dans l'enfance. Parfois, on va privilégier ce besoin d'amour de l'autre, et puis finalement au détriment de mes propres limites et du fait que je puisse prendre soin de moi. Donc c'est pour ça que l'amour, par exemple, j'ai besoin d'amour, d'attention de l'autre. Et ça, c'est un besoin qui est naturel, hein, qu'on ne va pas commencer à négocier parce que voilà, ça de nouveau c'est un piège, hein. Il faut tous donner soi-même et tout. Non, ben, moi je crois pas du tout à ça. Je crois qu'on l'être humain est un être social qui a besoin de connexion, de relation. Là où ça devient dangereux, c'est quand je suis prête à tout et je suis prête à négliger mes besoins parce que j'ai trop besoin de cette attention qui vienne de l'autre et d'une personne en particulier et je peux plus choisir. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pour ça que je dirais, c'est important d'apprendre à s'aimer soi, de rétablir des croyances qui soient, j'ai envie de dire, saines d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, je me réapproprie ma valeur. Et si vous avez un problème avec vos propres valeurs, vous pensez ne pas mériter, jamais vous arriverez à poser vos besoins de manière équilibrée et fonctionnelle. Vous allez obligatoirement tomber dans les dérives de la suradaptation parce que, en fait, au bout d'un moment, c'est inconscient. On a tous besoin d'attention, on a tous besoin de relations. Et quand je ne crois pas mériter des relations saines, et quand je commence à justement négocier avec mes besoins, j'entre dans des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles. Et là, ce n'est pas moi la pauvre victime et l'autre qui est méchant, etc. En général, on est tous concernés, on entre dans ces dynamiques dysfonctionnelles, on a tous un rôle à jouer, et ces rôles changent, et c'est très compliqué de sortir de là. Et c'est pour ça que en même temps, de chercher à sortir de là sans vraiment rétablir cette valeur et cette estime de soi, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, sur cette question de la manipulation, j'avais fait précédemment une vidéo aussi que je vous invite à aller regarder si ce sujet vous intéresse. On a un immense besoin de bienveillance et de respect, on déteste être méchant, on déteste blesser les autres, bon, aussi déjà parce que ça génère un immense inconfort chez nous, mais parce que c'est dans les valeurs, vraiment, je pense que les hypersensibles partagent. Souvent dans mes vidéos, je parle de ce monde des bisounours qu'on a envie de créer, de cette sensation aussi parfois d'être extraterrestre, de trouver le monde hostile, quand nous-mêmes, finalement, on a la sensation en tout cas de devenir méchant, j'ai envie de dire, ça devient très compliqué. C'est pour ça que il faut apprendre cette communication assertive pour être ferme sans tomber dans l'excès. Mais là, justement, je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, justement, on apprend cette communication assertive en la pratiquant. Donc, il faut commencer quelque part et il faut s'autoriser à se tromper. On peut toujours s'excuser. Voilà, de toute façon, plus j'attends, pire ça sera. Ça finira quand même par sortir. Et ça, c'est une victoire finalement de l'esprit. Hein. Quand ça ne se passe pas, ben, la personne tombe dans l'épuisement, la dépression. Et finalement, ben, c'est presque pire. Donc j'ai envie de dire, au début, il faut s'autoriser à faire des erreurs et peut-être s'exercer aussi dans des jeux de rôle, des choses comme ça. Ça peut être très utile en fait pour trouver ce positionnement interne et cette sens. Parce que je trouve que c'est beaucoup une question d'énergie interne et de posture en fait. Et c'est comme s'il fallait s'approprier cette posture et la cultiver. C'est pour ça que je trouve très utile, moi. En stage, par exemple, je fais par exemple, souvent les postures du yoga, le guerrier. Parce que justement, quand on est dans cette posture-là, on ressent cette force, cet ancrage aussi, et puis cette sécurité. Et ça nous permet de nous approprier cette énergie-là. Et ensuite, c'est plus facile de la contacter quand j'ai besoin d'être ferme avec quelqu'un. Et puis là aussi, d'y aller peut-être un peu étape par étape, de commencer avec des personnes avec qui on se sent en sécurité. Et puis, comme ça nous permet d'évoluer, d'apprendre cette communication assertive et bienveillante, et puis de petit à petit nous respecter. Voilà, je pense que c'est un processus en fait. Il y a un équilibre à trouver, c'est tout un art, et peut-être que ça prend toute une vie. Quels sont les cinq besoins principaux des personnes hautement sensibles? Et là, j'ai envie de dire que moi, souvent, d'ailleurs, j'utilise cette image en hypnose quand j'accompagne des gens. C'est comme la batterie d'un téléphone. Comment est-ce que je fais pour garder ma batterie bien chargée? Je fais cet exercice au début de ma méditation. Je vérifie un petit peu voilà où j'en suis. Voilà, c'est 5-10%, pas terrible. La fin de la méditation, j'essaye d'être le plus haut possible avec mon niveau de batterie. Je trouve que ça, c'est une image qui parle beaucoup aussi à l'inconscient et je l'utilise beaucoup dans ma pratique aussi. Alors, bon, j'en ai choisi 5, il y en a évidemment beaucoup plus, hein, mais voilà, je ne voulais pas non plus trop m'étendre. Donc, il y a le repos émotionnel. Voilà, comme je disais, comme un téléphone qui a besoin de se recharger, ben, on a besoin de temps pour ressourcer son esprit, d'abord avec nous-mêmes, et puis ensuite dans des relations qui soient saines, qui soient nourrissantes et épanouissantes. Un autre besoin très important, c'est le besoin d'authenticité. Et c'est important de bien se connaître et d'oser là être authentique. Et puis c'est pour ça que justement apprendre cette communication assertive, ça permet d'éviter de tomber dans l'excès et puis de devenir finalement quelqu'un dont les gens vont dire ah, celle-là elle est hystérique, elle est trop compliquée, elle est trop émotionnelle, voilà. Et puis de pouvoir finalement garder toute sa dignité sans avoir non plus à se renier soi, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, rares sont ceux qui, comme nous, ont un besoin aussi accru, ben, par exemple, de cohérence, d'honnêteté, d'authenticité. Pour la plupart des gens, en fait, voilà, ils vont se contenter de quelque chose de beaucoup plus superficiel. Là, il n'y a pas du tout à juger, hein. C'est juste que nous, ça ne nous correspond pas. Et là, ben, le fait de respecter ses propres valeurs, et je vais aussi faire une vidéo là-dessus, c'est très important pour garder son énergie. Parce que si je commence à négocier avec ça, c'est le début de la fin. Et puis, je vais m'épuiser parce qu'en fait, j'arrive plus non plus à maintenir mon estime de moi. Si je ne suis pas capable de respecter mes propres valeurs pour moi-même, j'arrive pas à m'aimer, à me respecter moi-même. Donc, je perds mon énergie. Voilà, c'est évident. On a besoin de relations profondes. Troisième point. C'est des relations qui sont nourrissantes et c'est dans lesquelles des relations dans lesquelles on peut être nous-mêmes. Peut-être, c'est vrai, qu'il y en aura moins. Peut-être qu'il faudra apprendre à choisir les gens. Et peut-être que vous allez être déçus en chemin. Il y a pas mal de deuil à faire. Parce que tout le monde n'a pas envie. Et tout le monde ne peut pas non. Il y a des gens pour qui, sincèrement, pardonnez-moi du terme, mais c'est chiant, quoi. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ouais, mais lâche prise, etc. Voilà, moi, ça fonctionne pas. Moi, j'ai besoin d'aller au bout des choses. S'il faut couper les cheveux en quatre pour mettre les choses à plat. J'ai besoin d'aller au bout, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être comprise. Pour moi, c'est ultra important et je trouve ça méga nourrissant. Et heureusement, le ciel m'a donné un homme merveilleux qui est comme moi et qui aime parler et qui a aussi ce besoin d'aller au bout des choses. Et heureusement, parce que je pense que sinon, sincèrement, j'aurais jamais été heureuse en couple. J'ai essayé, pas pu, voilà. Donc en fait, c'est tout à fait possible de trouver quelqu'un qui aura ce même besoin que vous et puis avec qui vous allez pouvoir être aligné. Après, on n'est jamais totalement aligné. Donc on peut aussi, certaines fois, ce besoin de relation, le trouver dans la nature, avec des animaux, avec d'autres personnes, des amis, etc., dans des groupes de rencontres ou dans des gens d'une communauté spirituelle, parce que là, on peut aussi ensuite être nourri au niveau de notre spiritualité. Donc, ce n'est pas uniquement le couple. Peu importe d'ailleurs qu'on soit en couple, quelle forme de couple, l'important, je pense vraiment, c'est de pouvoir avoir ce partage, cette connexion et cette intimité. Et là aussi, souvent, chez les personnes non sensibles, il y a cette peur de l'intimité à surmonter, c'est vrai. Et ça passe souvent par la compréhension de qui je suis, apprendre en fait à accepter ça et à prendre soin de ça pour pouvoir ensuite s'orienter vers des personnes qui vont me correspondre. Parce que si je suis tout le temps en train d'essayer d'être comme tout le monde, au fond, c'est-à-dire que je n'accepte pas mon individualité et du coup, je ne vais pas être attirée par des personnes qui me ressemblent. Je vais être attirée par des personnes à qui moi, j'aimerais ressembler, mais qui au fond, finalement, me donneront cette sensation de tout le temps devoir me suradapter. Le quatrième point, qui est un besoin très important chez les personnes non sensibles, c'est le besoin de contrôler son niveau de stimulation. Je disais, hein, c'est une des caractéristiques des personnes non sensibles, c'est qu'elles sont facilement surstimulées. C'est le système nerveux chez nous qui fonctionne comme ça. Et du coup, c'est important de prendre soin de ça. Je dirais par exemple, en particulier au niveau de votre activité professionnelle, ça va être un défi. Hein. Par exemple, moi, j'ai travaillé longtemps en open space, avec le téléphone qui sonnait sans arrêt, plein de tâches différentes. Alors, j'aimais ça parce que ça me stimulait beaucoup. J'aimais aussi ce côté défi, ce côté stimulant intellectuellement. Mais en fait, quand même, ça me fatiguait au niveau des cinq sens. C'était souvent trop de bruit, trop de lumière, trop... Voilà, c'est comme souvent ce qui plaît maintenant au niveau, dans les films et tout ça. Pour moi, c'est juste trop, quoi. Donc, je choisis précautionneusement les films que je regarde. C'est d'ailleurs un peu frustrant pour Ricardo. Parce que voilà, tout de suite, si c'est trop violent... alors, si c'est de la science-fiction, ça va, mais si ça... C'est la vie de personnes, d'histoires réelles. Il y a des choses, moi, je ne peux juste pas regarder parce que pour moi, c'est trop, en fait. Ça va trop me toucher. Par exemple, s'il y a une musique trop forte, si ça bouge trop vite, des choses comme ça. Voilà, ça va très rapidement m'épuiser puis j'ai aucun plaisir à regarder ça, en fait. Chez les enfants aussi, c'est important, les enfants hautement sensibles. Alors, si jamais hein, vous souhaitez faire le test sur notre site internet www.anisen.ch, en haut à droite, vous cliquez sur l'icône « Suis-je hypersensible ?», vous avez le questionnaire pour adultes et le questionnaire pour enfants. Et il faut savoir que justement, les enfants, pour eux, c'est d'autant plus important de contrôler ce niveau de stimulation. Parce que l'enfant hypersensible, surstimulé, c'est sûr, il va devenir compliqué, irritable, il va faire des crises, il va avoir de la peine à dormir. Ça va rendre votre vie très compliquée, vous allez le trouver insupportable, alors qu'en fait, non, c'est vous qui n'avez pas réussi à réguler son niveau de stimulation. Et ça, c'est un truc, c'est dommage en fait, parce que ça péjore la relation parent-enfant. Et vous, si en plus vous êtes aussi sensible, ben, peut-être que c'est vous déjà qui ne respectez pas vos propres limites. Et puis, l'enfant essaye quelque part inconsciemment de vous passer un message là en disant, ben là, c'est juste trop, voilà, j'ai besoin de plus de calme en fait. Après, bien sûr, l'enfant a besoin d'être stimulé intellectuellement, mais il y a des activités qui permettent de le stimuler, de stimuler sa curiosité, tout en étant, je dirais, d'un point de vue des cinq sens, plus raisonnable. Voilà, il y a plein de jouets, par exemple, pour les bébés qui font plein de bruit, de lumière et tout. Mon fils ne s'est jamais intéressé à ces choses-là. Alors que, ben, en fait, s'ils en vendent autant, c'est probablement que ça plaît à beaucoup d'autres enfants. Mais pour mon fils, c'était rapidement trop. Je me souviens que des fois, je devais lui enlever certains jouets parce que ça finissait par l'énerver. Il adorait ça, mais c'était juste trop à un moment donné pour lui. Le dernier, c'est l'équilibre émotionnel. Donc, j'ai parlé en premier du repos émotionnel. Et là, j'ai envie de dire, c'est plus apprendre à accueillir ses émotions, à prendre soin de cette vie émotionnelle. Et pourquoi c'est tellement important? C'est parce qu'en fait, c'est un énorme réservoir d'énergie. Et je vous assure, en fait, que vos émotions sont finalement un pouvoir puissant que vous avez. Pour beaucoup de choses en fait passent par les émotions. Maintenant, on sait très bien que même le processus de pensée est intimement lié en fait à l'émotionnel. Donc c'est pas d'un côté le rationnel, d'un côté l'émotionnel. Les deux travaillent ensemble, en particulier dans le profil de la personne hautement sensible. Et si je parle avec émotion, si je vis vraiment ce que je suis en train de dire, ça passionne beaucoup plus par exemple les gens. Donc c'est ultra important de pouvoir se réconcilier avec sa vie émotionnelle. Mais pour ça, encore faut-il finalement pouvoir les accueillir. Et ça veut dire quoi? Parce que c'est tout un truc, ouais, accueille tes émotions, tout ça, mais c'est de la théorie. Pour moi, vraiment, si je dois résumer, c'est vraiment, voilà, laisser de la place au ressenti physique. Voilà, pas chercher à analyser tout de suite. Juste déjà laisser ces sensations exister en soi. Et le corps, il est conçu pour réguler ça. Donc, en fait, le corps sait tout faire. Très bien. Donc, l'enjeu, et ça, en tout cas, je peux vous dire que c'est souvent une rééducation qu'on fait avec les personnes qui viennent me voir, c'est arrêter de réfléchir, accepter de ressentir. Pas chercher tout de suite à juger, ouais, mais tu devrais pas ressentir ça, c'est parce que si, parce que ça, parce que t'es pas assez tolérant, t'es pas assez ci, t'es pas assez machin, puis gna gna. Et puis oui, c'est sûrement parce que dans l'enfance, t'es... Non, stop. Voilà. On verra ça plus tard. D'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion? Sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà, qu'est-ce que je perçois? Pour déjà sortir un peu, se désidentifier, observer ce qui est en train de se passer, observer quelle est la pensée source, il y en a toujours une. Je me sens, voilà. Alors souvent c'est je me sens envahie, je me sens pas respectée, je me sens pas aimée, je me sens pas considérée, etc. Il y a une pensée racine. Quand j'ai déjà identifié ça, il y a une grande partie du travail qui est fait. Et puis ensuite tout simplement j'observe ce ressenti, j'observe ce qui se passe dans mon corps, je respire et tout finit par s'apaiser. Un peu comme après le tsunami, il y a des fois encore quelques vagues, mais au bout d'un moment tout finit par retrouver son calme. Et justement, laissez-vous cette opportunité de retrouver ce calme, préservez ce temps pour vous, pour faire ce travail. Et c'est un travail qui est quotidien. Et parfois, je donne cet exemple que c'est un peu comme le brossage des dents. On ne peut pas se brosser les dents un jour par semaine et puis espérer qu'on n'aura jamais de caries. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, comme se laver aussi, prendre une douche. On nettoie son esprit, on prend une douche émotionnelle et on aide son corps à trouver cet espace en fait pour s'auto-réguler. Et ça c'est, je pense, sincèrement, 80% des maladies de notre époque sont liées au stress. Peut-être même plus d'ailleurs, il faudrait que je sois médecin, mais en tout cas, beaucoup de problèmes peuvent être réglés avec une bonne hygiène émotionnelle et une bonne respiration. Donc ça réduit le stress, ça renforce l'estime de soi. Ça préserve l'énergie émotionnelle, ça favorise les relations saines et évidemment ça encourage la croissance personnelle. Donc c'est pour ça que c'est tellement, tellement important d'apprendre à identifier mes besoins, d'apprendre cette communication assertive pour savoir comment le communiquer et faire en sorte que ça puisse être respecté. Quelques clés pour terminer. Voilà, les 5 meilleures stratégies pour poser ses limites. Donc, souvent, d'ailleurs, demandez-moi hein, cet exercice si vous le voulez, j'ai un enregistrement. J'utilise cette métaphore de la maison du moi. Donc, je conduis les gens en hypnose pour qu'ils s'imaginent leur maison intérieure, leur refuge intérieur et qu'ils apprennent à modifier ça. Et ça, c'est hallucinant à quel point c'est efficace et à quel point ça me permet, souvent à moi, en tout cas, j'utilise beaucoup cet exercice, de retrouver mon calme intérieur, de remettre un peu de lumière, de vie, de retrouver mes idées quand tout ça a été un peu confus. C'est vraiment, je trouve, un exercice très puissant. Et si vous voulez, je vous envoie volontiers cet enregistrement. Écrivez-moi à anita@anizen.ch. Donc, les limites, il faut s'imaginer que c'est un peu comme dans mon lieu de vie, dans mon appartement, si je pars de chez moi, je ferme les fenêtres. Si je suis là, je les ouvre, mais peut-être pendant la journée uniquement. Et je vais faire attention à ce que pas n'importe qui puisse rentrer. Donc, je ferme la porte à clé. Souvent maintenant, en tout cas moi, je vis dans un immeuble. La porte d'entrée est fermée, toutes les issues sont fermées parce que ça protège nos limites physiques. Et pour notre esprit, c'est pareil. Pouvoir poser ses limites, c'est c'est en fait finalement une manière de rester en sécurité au niveau psychique. Et puis voilà, chez vous, si vous souhaitez, ben quelqu'un sonne, vous demandez qui c'est, et si vous avez envie de laisser cette personne entrer, ben vous ouvrez la porte. C'est à vous de choisir, en fait. Personne n'a le droit de venir comme ça et puis de rentrer chez vous sans y être invité. Eh bien, imaginez poser ses limites et fermer cette porte aussi au niveau psychique pour ne laisser entrer que ce que vous souhaitez. Et trouver le moyen, ça peut être, c'est vrai, de vous isoler physiquement, mais il y a des moyens aussi de le faire de manière psychique, de préserver vraiment cet espace psychique pour ne pas être envahi par les énergies et les pensées de n'importe qui. Et moi, pour avoir découvert un peu sur le tard que j'étais médium, je peux vous dire que c'est fou à quel point on est influencé dans notre esprit, en fait, par j'ai envie de dire l'inconscient de masse autour de nous. Et en particulier, si encore je m'abreuve toute la journée, ça j'en ai déjà parlé souvent, mais faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. C'est fou à quel point on va se laisser influencer. Alors moi, j'admire beaucoup Ricardo parce que lui, il va lire en fait un petit peu toutes les opinions sur un sujet, puis ensuite il va arriver à se forger sa propre opinion. Ça demande pas mal de travail. Moi, c'est vrai que je vais le faire pour les sujets que je trouve très importants, mais pour les autres, souvent, je me préserve un petit peu pour éviter d'être influencée dans une direction ou dans une autre. Voilà, donc les cinq meilleures stratégies, c'est, moi j'en ai parlé beaucoup, pratiquer cette communication assertive, devenez un diplomate émotionnel, apprenez cette diplomatie, tout en étant, c'est pas de faire de la politique dans le sens de mentir, mais c'est de trouver le moyen finalement d'être ferme tout en étant bienveillant. C'est un art. Apprendre à dire non. Voilà, ça c'est un truc, c'est pas facile pour nous parce qu'on n'aime pas trop contrarier. Mais finalement, on peut jamais vraiment dire oui si on sait pas dire non. Voilà. Et souvent, quand on dit oui à quelqu'un d'autre, on va dire non à soi au fond, et c'est comme ça que je vais commencer à perdre mon énergie et je vais obligatoirement finir dans une position de victime, c'est certain. Définir des priorités, ça aussi c'est très important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment protéger votre énergie? Quelle est la priorité que vous mettez à ces activités qui vous font du bien, qui vous permettent de vous ressourcer pour finalement gonfler votre panier, votre réservoir et ensuite pouvoir bien s'occuper des autres. On prend toujours cette image aussi en coaching, dans l'avion en fait, on demande aux parents de d'abord mettre leur masque à gaz avant de le mettre à leur enfant. Ben c'est ça, je peux jamais prendre soin des autres, je vais pas arriver à être bienveillant, à être etc. dans l'ouverture, le partage, si moi-même je suis à bout, épuisée, irritable, etc. C'est évident. Dit comme ça, c'est évident, mais souvent on se laisse quand même prendre. Hein. L'humour, voilà. L'humour, un peu de dérision. J'ai remarqué, alors après, des fois, ça demande un peu d'exercice, mais quand j'arrive à le faire, c'est vraiment top. Je suis super contente parce qu'en fait, j'ai réussi à faire passer un message. On peut aussi utiliser les métaphores pour expliquer à l'autre, par exemple. Ben voilà, tu vois, quand tu dis ça, moi, ça me fait me sentir comme ça, etc. Et c'est très, très utile, en fait, aussi, d'avoir un peu de dérision pour soi. Et si jamais, voilà, ben oui, moi, c'est vrai, des fois, je suis un peu sensible. Alors, quand tu dis ça, voilà, je le prends comme ça, je m'excuse, mais est-ce que tu es d'accord, éventuellement? Voilà, peut-être plutôt proposer ou communiquer les choses de cette façon-là. Alors, après, voilà, évidemment, il faut un peu adapter le discours à la personne à qui on s'adresse. Mais moi, j'ai remarqué que, par exemple, avec certains de mes chefs, l'humour avait été vraiment une arme, j'ai envie de dire, parce que ça les a totalement surpris déjà. Et puis, finalement, quelque chose, ça a ouvert une porte, en fait, une réflexion chez eux. Et puis, peut-être, la clé la plus importante, la stratégie la plus importante, c'est déjà de pratiquer l'auto-empathie et l'auto-compassion. Quand vous sentez que, voilà, vous n'êtes pas bien, que vous commencez à être irritable, fatigué, etc., posez-vous, respirez et prenez du temps pour vous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne afin que d'autres personnes puissent avoir accès à ces contenus. Je vous présente encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et puis je vous envoie tout mon amour et mes meilleures énergies. À très bientôt. Au revoir.